Voilà, donc je vais enchaîner donc après Dibou. Alors très modestement, je vais enchaîner avec quelques présentations de mes travaux sur l'utilisation des descripteurs audio dans l'analyse de la musique électroacoustique. Alors ça fait à peu près 2 ans maintenant que je travaille à partir des descripteurs audio. J'essaie de comprendre déjà comment ça fonctionne exactement. Ensuite, j'essaie de voir quel type de descripteur on peut utiliser pour le corpus des musiques électroacoustiques. Alors, dans le corpus des musiques électroacoustiques, mon travail s'articule surtout sur celui de la musique acousmatique, on va dire, donc la musique de support. Pour le moment, assez peu sur les musiques interactives. Ça sera pour plus tard, mais pour le moment, je me concentre vraiment sur les musiques de support. Pour moi, les enjeux de l'utilisation des descripteurs dans l'analyse de la musique électroacoustique ne va pas être tellement un enjeu, enfin ne va pas consister à essayer de produire des outils qui permettent d'analyser automatiquement, comme c'est le cas sur certains usages des descripteurs audio, mais plutôt d'essayer de comprendre comment est-ce que, à l'aide de visualisation de ces descripteurs, on peut essayer d'aider l'analyste un petit peu dans la direction qu'a commencé à montrer Diemo avec l'utilisation de KTRT. Alors, au tout début, j'ai utilisé différents logiciels pour créer ces visualisations. J'ai utilisé d'ailleurs KTRT il était un logiciel très intéressant pour visualiser et, comme vous a montré Diemo, pour naviguer à l'intérieur de corpus. On peut utiliser des logiciels comme Sonic Visualizer, j'ai utilisé aussi des tableurs. Et puis, j'ai aussi développé différents logiciels, dont un logiciel dont le développement s'est terminé il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle e-Analysis. Et l'idée assez rapidement a été d'intégrer dans ce logiciel des modes de visualisation des descripteurs audio pour la musicologie, donc pour aider à l'analyse des musiques électroacoustiques. Donc ça va être un petit peu le cœur de ma présentation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel qui a été développé en collaboration avec l'université de Montfort à Leicester, qui maintenant est développé en collaboration aussi avec l'IREMUS, e-Analysis, l'objectif c'est de faire un outil qui permette d'aider à l'analyse des musiques électroacoustiques et plus largement finalement de toutes les musiques qui ne sont pas basées sur la note musicale mais sur le son. Et donc on va essayer d'analyser les œuvres ou les enregistrements d'une manière, enfin, on va essayer d'analyser le son lui-même. Alors c'est un logiciel qui propose différentes visualisations. Voilà quelques exemples d'interfaces qu'on peut trouver dans ce logiciel. C'est un logiciel qui cherche à relier à la fois des représentations du son, là vous avez un sonagramme par exemple forme d'onde, et puis des méthodes d'analyse ou des théories d'analyse musicale. Donc là, vous avez par exemple la typomorphologie de Schaeffer et donc qui permet assez rapidement de segmenter le matériau avec des petits outils graphiques pour simplement glissant en déposant et en allant chercher dans un tableau comme celui-ci ici ou dans d'autres outils. Donc j'ai intégré un certain nombre d'outils théoriques qu'on utilise en analyse musicale. Il y a la spectromorphologie de Denis Mollet, il y a les travaux aussi sur les événements, le paysage sonore et les événements sonores de Murray Schaeffer. Il y a un certain nombre d'outils, les images de son de François Dalles, etc., ce genre de choses. Voilà d'autres représentations comme on peut le faire dans ce logiciel. Ce logiciel aussi permet de travailler avec des outils externes. J'ai par exemple intégré récemment l'utilisation d'un outil développé par l'IRCAM qui s'appelle SuperVP, qui est très très intéressant en musicologie pour nous, qui est intégré dans AudioSculpt, mais qui est aussi utilisable directement en ligne de commande, et qui est très intéressant parce qu'il va nous permettre d'aller sélectionner des parties, des zones du spectre, et puis de pouvoir renforcer ou filtrer les zones du spectre. Alors avec ce logiciel e-Analysis, on peut annoter, donc dessiner des formes graphiques directement sur le spectre ou sur la forme d'onde ou sur d'autres formes de représentation du son. Et puis ensuite, on peut décider de transformer ces différentes annotations en filtres et ensuite donc directement utiliser SuperVP, donc communiquer directement avec SuperVP si vous avez installé SuperVP, directement depuis le logiciel, ce qui évite d'exporter le fichier son, de rentrer dans AudioSculpt, de redessiner la forme, de filtrer, de réimporter, etc. Donc l'opération est automatique. Donc c'est très très rapide et ça permet tout de suite d'aller filtrer des zones du spectre ou d'aller renforcer des zones du spectre. J'ai aussi intégré d'autres outils comme par exemple le plugin Libstract qui offre une quarantaine de descripteurs audio et donc ça va être la présentation va être essentiellement basée là-dessus. Le logiciel permet aussi d'importer n'importe quel type de données en fait à l'intérieur. Au début, je travaillais beaucoup avec Sonic Visualizer et avec différents descripteurs des plugins de Sonic Visualizer qu'on peut exporter en format texte ou CSV. Et puis ensuite, tous ces fichiers, on peut les réimporter dans e-Analysis. Donc en fait, on n'est pas obligé de travailler avec seulement des descripteurs audio. On peut aussi travailler avec des listes de segmentation, avec tout ce qu'on veut en fait à l'intérieur. Et ensuite, utiliser toutes les représentations que je vais vous montrer à partir à l'aide de n'importe quel type de données. On peut aussi utiliser dans e-Analysis la vidéo. C'est un des points forts un petit peu du logiciel. Vous connaissez bien sûr le logiciel qui s'appelle l'Acousmographe, qui permet de faire un petit peu un travail similaire, on va dire, au niveau annotation, mais pas après au niveau représentation et notamment tout ce que je vais présenter aujourd'hui. Par contre, dans ces logiciels, on ne peut pas travailler sur la vidéo, donc on a un gros problème si on veut travailler sur de l'analyse de l'interprétation, on a un gros problème si on veut travailler sur de l'analyse de musique de film, ou sur même de l'analyse de vidéo. Donc dans e-Analysis, on peut importer une ou plusieurs vidéos et donc visualiser directement dans la représentation ou sur une fenêtre qui apparaît en surimpression la vidéo en question. Voilà donc globalement une petite présentation de e-Analysis. Je pense que vous avez compris, en fait, l'idée c'est de superposer des représentations qui peuvent être très différentes les unes des autres dans le logiciel. Alors maintenant, passons au descripteur audio. J'ai essayé pas mal de descripteurs audio sur des corpus très différents de musique électroacoustique. J'ai créé des groupes de corpus et pour voir un petit peu qu'est-ce qui était pertinent, sur quel type de son, etc. Alors voilà globalement ceux sur lesquels je me suis un petit peu recentré maintenant. Il y en a que j'ai pas encore exploré, hein, donc c'est vraiment un premier état, hein. Ce travail est vraiment en cours. Hein. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu les corpus, les descripteurs audio, peut-être que Geoffroy Peters fera une présentation rapide dessus. Donc globalement, voilà concrètement les descripteurs ou les données sur lesquelles je me suis basé, l'amplitude, le loudness, qui est un descripteur en fait de l'amplitude du son, mais avec des algorithmes de psychoacoustique, donc en fait qui sont censés reproduire la perception humaine. Ensuite, il y a un groupe de descripteurs qui permettent de travailler sur la moyenne de la masse spectrale, que ce soit le centroïde spectral, ou j'ai aussi pas mal utilisé ces derniers temps le spectral roll-off, qui permet de mesurer la fréquence en dessous de laquelle est concentré un certain pourcentage de l'énergie du spectre. Alors généralement, ce pourcentage varie entre 80 ou 95%. Moi, j'ai utilisé entre 85 et 90% au niveau de ce pourcentage. J'ai utilisé aussi les MFCC, qui, elles, sont des descripteurs qui découpent le spectre en bandes de fréquences. Probablement Mireille ou Geoffroy Peters pourront en parler plus précisément de la manière dont ça fonctionne exactement. Couplé avec la variance spectrale, donc pour ceux qui se souviennent un petit peu de leur cours de statistique, la variance, je vous rappelle, c'est le coefficient de dispersion donc des valeurs autour du barycentre. La déviation spectrale et puis aussi des descripteurs qui permettent d'indiquer des niveaux de bruit ou des niveaux de niveaux d'harmonicité à l'intérieur du son. Donc pour le moment, j'ai utilisé essentiellement l'inharmonicité, le spectral flatness pour ces éléments. Voilà, donc c'est vraiment ceux sur lesquels je me suis un petit peu concentré et qui m'ont semblé un petit peu pertinents pour l'analyse des musiques électroacoustiques. Alors voyons maintenant un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler à partir de ça, à partir de ces différents descripteurs en musicologie. La grosse problématique, et on a commencé un petit peu à le voir avec Dimo Schwartz, c'est le problème de la représentation. Puisque, en fait, finalement, lorsqu'on fait une analyse et qu'on utilise un descripteur sur AffiChirio, on se retrouve avec une représentation du type de ce que vous avez, par exemple, en haut ici. Donc, vous avez trois courbes, simplement, qui représentent dans le temps l'évolution de trois descripteurs audio. Alors, qui sont mises en relation ici avec le spectre et la forme d'onde. Déjà, avec cette représentation, on peut commencer déjà à visualiser des points de concordance qui peuvent exister entre différents types de représentations, entre le spectre par exemple et puis une ou plusieurs des courbes. Donc ça permet déjà de commencer à voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir extraire différentes données de ces descripteurs. Mais on peut aller un petit peu plus loin que ça quand même. Alors, j'ai expérimenté un certain nombre de représentations. Je vous livre brut un petit peu les résultats de mes travaux actuellement. Une représentation sur laquelle je suis en train de travailler, qui est une représentation non plus sous la forme de courbe, mais sous la forme de dégradé de couleur. Donc là, vous avez un descripteur, je crois que c'est un MFCC. Dont les valeurs sont représentées sous la forme de dégradé de couleur. Alors là, il y en a trois représentations. Simplement, on peut choisir dans le logiciel e-analysis, avec le petit panneau de propriétés que vous avez sur la droite, le nombre de couleurs que vous voulez visualiser. Donc sur celui du haut, par exemple, on a une centaine de couleurs différentes, donc une centaine de valeurs différentes représentées en couleurs. Là, je reprends, en fait, cette représentation prend au niveau des couleurs le spectre lumineux. Juste dessous, on a sur celle du milieu, on a une douzaine de couleurs et donc une douzaine de valeurs différentes. Et puis celle du bas, on n'a que trois valeurs différentes. Donc ça permet de faire un échantillonnage en fait à partir d'un descripteur et de voir tout de suite s'il y a des grandes parties qui peuvent se distinguer les unes par rapport aux autres. Autre type de représentation, alors là je me suis beaucoup inspiré du travail de Diemo dans son logiciel KTRT. Pour faire des représentations en nuages de points. Donc dans mon logiciel, vous avez un outil qui vous permet de faire des graphiques de nuages de points, soit même de les superposer, pardon, d'en superposer plusieurs, ou de les juxtaposer. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en montrer un avec huit graphiques représentant les huit haut-parleurs d'une pièce électroacoustique multipiste. Et pour chacun de ces graphiques, il est possible de choisir les caractéristiques de ces points, un petit peu comme ce que vous a montré Diemo, mais beaucoup moins évolué que le résultat qu'ils ont obtenu avec Mobu. Et donc pour chacun des points, on peut choisir jusqu'à 5 descripteurs. Il va y avoir les positions X, Y, la couleur, la taille et puis la transparence. Donc là, vous avez un graphique qui est réalisé de cette manière. Alors cette représentation de base permet déjà de visualiser un certain nombre de choses assez intéressantes puisque là on se coupe finalement de la donnée temporelle et on va essayer de voir globalement dans une œuvre ou dans plusieurs fichiers audio globalement est-ce qu'il y a des regroupements qui sont effectués selon les différents descripteurs. Et puis bien évidemment, comme je disais, on peut aussi importer d'autres types de données, on peut donc intégrer l'intensité, etc., ce genre de données. Mélangé avec les descripteurs. Alors voilà comment fonctionne cette représentation. Juste une petite démonstration qui va vous montrer les différentes fonctionnalités, parce qu'on va un petit peu plus loin, enfin je vais un petit peu plus loin que la simple visualisation des points dans un graphique en nuage de points. On peut aussi aller explorer les différentes représentations, enfin les différents éléments analysés ici. Alors on peut sélectionner des points en partie, enfin des zones de points à l'intérieur. On peut aller écouter en cliquant Voilà, on peut aller écouter en particulier certains points à l'intérieur. On peut sélectionner des zones différentes. On peut aussi sélectionner une zone et puis déplacer la zone. Et vous voyez, on peut afficher sur la ligne temporelle ici, dans laquelle il y a un sonagramme derrière, la position de chacun des points. de façon à explorer à quels endroits se trouvent ces différents points. Voilà donc globalement les idées qui se trouvent derrière ça. Alors on peut aller, il y a aussi une petite fonction qui permet d'aller encore un petit peu plus loin, c'est d'animer le graphique. C'est-à-dire qu'on peut ensuite choisir une fenêtre temporelle dans le fichier audio et afficher les sons uniquement, enfin les points uniquement de cette fenêtre temporelle, de façon à voir comment les éléments sont organisés dans le temps. Alors voilà un premier extrait dans une pièce, enfin non, c'est un extrait d'une pièce qui s'appelle Son vitesse lumière de François Bell. Son vitesse lumière, c'est un cycle très long qui dure quasiment 2 heures. Et j'ai travaillé sur la première partie, le premier mouvement, qui dure une bonne demi-heure, dans laquelle j'ai extrait un certain nombre de parties. Donc là, vous allez avoir une petite animation qui va montrer la lecture en fait, de ce fichier audio. Alors, vous avez au niveau des représentations, en bas, la forme d'onde. Juste au-dessus, le sonagramme, il y a une petite matrice de similarité, mais j'expliquerai ça après. Et puis, juste au-dessus, vous avez une représentation sous la forme d'un dégradé, comme je vous ai montré, et puis au-dessus, le nuage de points. Alors, je lance la lecture, puis après, j'explique un petit peu. Voilà, donc dans cet exemple, vous voyez, on voit l'animation. Alors, il y a un petit tampon temporel. On peut, dans le logiciel, sélectionner la position de l'empan temporel. Est-ce qu'il est après la tête de lecture? Est-ce qu'il est en avance sur la tête de lecture? Est-ce qu'il se situe, il encadre la tête de lecture avec la durée, etc. La durée qu'on souhaite avoir. Ici, on voit clairement, en fait, au niveau du descripteur, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que progressivement, dans le temps, on a une dispersion enfin, un resserrement de plus en plus des valeurs du descripteur. Et donc, si on part au début avec des valeurs assez dispersées, progressivement, cette dispersion se réduit durant la lecture du fichier audio. Voilà un premier exemple d'usage de descripteur. Alors, deuxième exemple, c'est autour d'une pièce qui s'appelle Necropolis, City of Dead, du compositeur Hakke Parmerud. C'est une pièce multi-piste, c'est une pièce en 8 pistes. Les haut-parleurs sont placés idéalement autour du public. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé les descripteurs audio sur chacune des pistes. Et ensuite, j'ai fait exactement la même chose et j'ai essayé de voir si, à partir de ça, il y avait des regroupements entre les différentes pistes. Parce que là, du coup, ça permet de visualiser très facilement sur les 8 pistes, enfin, les 8 pistes en même temps, de voir comment sont gérées ces 8 pistes au niveau de la spatialisation à travers donc l'analyse des descripteurs. Donc là, il y a juste en axe. Je crois que j'ai fait une petite erreur dans la note en bas. En fait, c'est en axe Y, pardon, c'est le barycentre spectral. Et en axe X, c'est l'amplitude. Alors voilà ce que ça donne. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Lorsqu'on analyse une œuvre en multipiste, le gros problème, c'est qu'on n'a pas à notre disposition souvent 8 haut-parleurs de façon à pouvoir écouter l'œuvre à part en concert. Et donc c'est assez difficile de travailler de cette manière. Donc on travaille souvent avec 2 pistes qu'on peut écouter. Et donc avec ce petit principe, en fait, ça permet de visualiser ce qui se passe sur chacun des canaux et surtout de montrer ce qui se passe sur chacun des canaux. Ici, on est juste en stéréo. Et vous avez vu que même si au début, chacun des canaux, et c'est un petit peu le principe de la pièce, hein, la pièce au début, les canaux fonctionnent quasiment identiquement, il y a très très peu de différences en fait, et sont bien révélés là par le descripteur dans le centre spectral. Et ensuite, progressivement, on voit se dessiner des groupes de haut-parleurs. Alors soit il y a une division entre les haut-parleurs qui sont devant le public et ceux qui sont derrière, soit une division gauche-droite. Il y a des groupes comme ça de haut-parleurs qui apparaissent. Alors il y a, il y a une publication d'une analyse qui porte sur ce type de représentation et sur cette œuvre en particulier qui va bientôt apparaître dans la revue Musimédiane dans un des prochains numéros. Donc vous avez cette représentation qui va un peu plus loin parce que là je vous ai juste montré le tout début, mais ce qui est intéressant c'est de le voir sur 3-4 minutes, l'évolution sur 3 ou 4 minutes. Voilà donc pour ces premiers types de représentations. Autre représentation que j'ai intégrée dedans, c'est le magnifique travail qu'a fait Mireille Malt, qui nous parlera peut-être après, je pense. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail avec ce type de courbe dans laquelle on peut visualiser en fait, 3 descripteurs sur trois types de données sur une seule courbe. Alors j'ai poussé un peu le bouchon un peu loin sur le logiciel e-analysis où on peut, avec cette courbe, directement choisir quel type de données on veut afficher en valeur de X, en épaisseur de courbe ou en couleur, en dégradé. Donc on peut vraiment avoir, on a vraiment des éléments un petit peu plus fins. Par exemple, on a ce type de représentation, vous avez la courbe en haut ici. Mais comme Mireille vous en parlera un petit peu plus en détail après, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail. Alors, autre représentation sur laquelle je me suis un petit peu penché, c'est essayer de visualiser les corrélations qui peuvent exister entre plusieurs descripteurs. Bien évidemment, on peut simplement calculer un coefficient de corrélation. C'est une manière très simple d'obtenir une nouvelle courbe qui va montrer la corrélation qui peut exister entre 2 courbes différentes, par exemple. Mais ce type de représentation pose un petit problème, c'est que pour faire la corrélation, on va regrouper des valeurs entre elles, soit par 2, par 3, par 4, etc. Donc on va utiliser une échelle particulière qui n'est pas forcément l'échelle de la musique. Et surtout, lorsqu'on explore en analyse musicale, on a besoin d'essayer plein de choses et d'expérimenter à plusieurs échelles différentes. Donc en fait, ça risque de prendre pas mal de temps. Donc dans e-analysis, j'ai intégré un système qui a été un système de visualisation qui a été développé pour le projet Charm au King's College qui s'occupe d'analyse de l'interprétation, dans lequel il y a un sous-projet qui s'appelle Mazurka qui a été, il me semble me rappeler, dirigé par Nicolas Cook, si je me souviens bien. D'ailleurs, le projet Charm en lui-même était dirigé par Nicolas Cook. Et dans lequel ils ont produit des représentations en faisant une représentation en corrélation hiérarchique, en fait. Alors, comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne de cette manière. Alors, peut-être que, avant de passer à ça, j'explique. Si on prend deux listes de valeurs, donc là, ça pourrait être, par exemple, 2 suites de descripteurs audio. Donc là, je suis sur des valeurs entières, mais on peut imaginer la même chose sur des valeurs en décimales, bien évidemment. Je vais commencer par regrouper les valeurs d'abord par 2, donc pour faire des sous-listes en fait. Et puis ensuite, je vais faire un regroupement par 3, et ensuite, etc. Et donc, je vais construire comme ça une matrice qui va progressivement regrouper toutes les valeurs. Alors, bien évidemment, là, je suis sur 6 valeurs, donc il n'y a que 2 niveaux au niveau de la matrice, puisque le niveau d'au-dessus, ça serait le regroupement complet. Il n'y aurait que 2 niveaux ici. Mais lorsqu'on travaille sur des descripteurs audio dans lesquels on va avoir des centaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de valeurs, en fait, on peut avoir une matrice très très grande. Et à partir de ça, donc, je calcule la corrélation qui existe entre chacune de ces cases de ma matrice en utilisant le Pearson Product Moment Correlation. Donc c'est un algorithme dans lequel on obtient en fait des valeurs entre moins 1 et 1. 1 étant une corrélation parfaite ou forte entre les deux listes, moins 1 étant une corrélation inverse, c'est-à-dire vraiment des listes qui évoluent complètement à l'opposé, et puis 0 donnant une absence de corrélation entre les deux éléments. Donc ensuite, il suffit simplement de colorer ce résultat de matrice, parce que bien évidemment, on obtient une matrice très très grande avec plein de valeurs numériques, ce qui n'est pas très très utile. Pas très pratique à utiliser. Donc on fait une coloration de cette matrice, généralement en mettant deux couleurs en opposé. Donc là, vous avez rouge en corrélation, bleu en opposition de corrélation, et puis blanc, lorsque c'est neutre, il n'y a aucune corrélation. Et donc comme ça, ça permet en fait de visualiser la corrélation avec plusieurs niveaux de regroupement, pas seulement au niveau fin, et on obtient ce type de représentation. Alors voilà ce que j'ai implémenté. En fait, c'est exactement le principe qu'ils ont développé dans ce projet au King's College, que j'ai directement implémenté dans e-analysis. Alors là, ça m'a permis, par exemple, ici, dans cette analyse, toujours on est sur la même pièce d'Acker Parmerud, de visualiser la corrélation entre deux haut-parleurs. Entre l'intensité entre deux pistes. Je vous rappelle, cette pièce est en multipiste, en 8 pistes. Et donc, j'ai essayé de voir s'il y avait une corrélation entre la piste qui représente les haut-parleurs qui sont devant le public et puis les pistes qui représentent les haut-parleurs qui sont derrière le public. Donc là, vous avez deux graphiques. Un premier graphique en haut qui représente la corrélation entre le haut-parleur et donc la piste de devant et de derrière sur la droite. Du public, et puis l'autre qui représente la même chose sur la gauche du public pour voir s'il y avait une corrélation, il se passait quelque chose. Alors sur le premier, vous voyez sur la droite, on voit pas, il n'y a pas grand chose qui se dégage, si ce n'est que plus on avance dans la pièce, jusqu'à un moment, on arrive à peu près aux trois quarts de la pièce, on voit qu'il y a de plus en plus de corrélation entre l'intensité des haut-parleurs sur la partie à droite. Par contre, sur la partie gauche, vous voyez qu'il y a clairement deux parties qui se dégagent. Alors ici, en rouge, apparaissent les moments de forte corrélation. Il y a clairement deux parties qui se dégagent, avec une première partie dans laquelle les deux haut-parleurs devant et derrière sont pas très... il y a un petit peu de corrélation, mais assez peu. Par contre, une deuxième partie dans laquelle l'évolution de l'intensité, il y a beaucoup plus de corrélation dans l'évolution de l'intensité. Voilà ce type de graphique que vous pouvez réaliser dans e-analysis. Autre graphique, dernier graphique sur lequel je me suis penché, c'est le problème de la représentation sous la forme de matrice de similarité et d'autosimilarité. Alors comme pour les autres graphiques, l'idée, bien évidemment, faire des matrices de similarité, en fait, il y a plein de logiciels qui permettent de le faire, mais pour un musicologue, ce n'est pas forcément très évident. D'utiliser MATLAB ou d'utiliser d'autres logiciels. Donc l'idée de e-analysis, c'était aussi de fournir des outils relativement simples pour faire ces représentations. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est qu'une matrice de similarité. Je vais juste vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Même chose, on a deux séries de valeurs. À partir de ces deux séries de valeurs, on va constituer une matrice dans laquelle on va calculer la distance entre chaque point, chaque valeur de l'abscisse et chaque valeur de l'ordonnée. Donc là, on a une distance qui varie entre 0 et 4 dans notre matrice ici. On obtient donc une très très grande matrice, bien évidemment, dans le cas de l'analyse d'une œuvre ou d'un fragment audio. On va ensuite colorer cette matrice en faisant un mapping en fait, entre ces valeurs numériques, donc de 0 à 4, sur des valeurs en niveau de gris. Donc là, entre le noir et le blanc. Le blanc étant une distance de 0 entre les valeurs. Donc ça prend un petit peu de temps, toute cette partie de calcul dans le logiciel e-analysis. Et ensuite, ce que je fais dans mon logiciel, c'est que j'applique un filtre coloré qui permet ensuite de faire une coloration en fausse couleur et qui permet d'améliorer la visualisation de cette matrice en niveau de gris. Et donc là, par exemple, ici, j'ai appliqué un petit filtre qui permet de mettre en évidence les parties qui sont fortement similaires et qui apparaissent en jaune et en orange, et de regrouper les autres parties dans des valeurs beaucoup plus sombres. Alors on peut aussi faire des matrices d'autosimilarité. Dans ce cas-là, on va mesurer non pas la similarité entre deux descripteurs audio différents, par exemple, ou entre deux valeurs différentes, ou entre le même descripteur, mais appliqué sur plusieurs œuvres différentes ou sur plusieurs canaux d'une même pièce en multipiste. C'est aussi là l'intérêt. On peut calculer aussi les similarités d'une suite de n'importe quel nombre, en fait, par rapport à elle-même. Et à ce moment-là, on obtient donc ce type de matrice. Alors dans les matrices d'autosimilarité, on a bien évidemment cette petite diagonale qui représente l'exacte similarité entre les points par rapport à eux-mêmes. Et donc en fait, la matrice du coup se décompose en deux triangles qui sont finalement qui représentent exactement les mêmes valeurs. Voilà donc pour expliquer rapidement l'utilisation de la manière dont fonctionne la matrice de similarité. Alors dans mon logiciel, en fait, on peut calculer une matrice de similarité à partir de n'importe quelle donnée. Donc ça peut être des descripteurs audio, ça peut être aussi n'importe quel type autre de données hein, que vous auriez produit avec n'importe quel autre logiciel. Donc là, la matrice se trouve ici. Là, c'est une matrice d'autosimilarité. Et on peut, si on a calculé les descripteurs audio, si on a importé les descripteurs audio ou si on les calcule directement dans le logiciel avec le plugin Libstract, on peut directement empiler ces descripteurs audio et calculer donc la matrice de similarité à partir de ces descripteurs audio. Donc voilà, vous voyez l'interface du logiciel avec le petit panneau de propriété à droite. Et puis la partie en bas à droite qui vous permet de colorer et de choisir exactement les couleurs que vous voulez avec un système sur 8 couleurs pour les valeurs. Donc là, par exemple, ici, dans cette matrice de similarité, c'est assez intéressant sur cet extrait de la pièce de François Bell. On voit clairement plusieurs parties apparaître à l'intérieur qui ne sont pas forcément très visibles sur le spectre que vous avez juste dessous, mais qui apparaissent clairement en fait, dans la matrice de similarité. Alors, ça ne veut pas dire qu'à partir de ça, on va faire de l'analyse automatique. Ça, en analyse musicale, du moins pour le moment, ça n'a pas grand intérêt. Du moins, dans mes travaux, ça n'a pas grand intérêt. L'idée, c'est de fournir une représentation qui permette à l'analyste d'aller naviguer plus facilement à l'intérieur d'une œuvre, voire naviguer plus facilement à l'intérieur de plusieurs œuvres, de façon à pouvoir se repérer et de tout de suite pouvoir repérer des indices qui vont lui dire que peut-être il y a des parties qui sont semblables ou certaines parties vont être similaires entre elles. Donc l'idée, c'est derrière tout ça, c'est bien évidemment de relever ces éléments, d'aider l'analyste dans son travail de représentation. Voilà donc pour ma présentation. Donc meilleure visualisation des données. Peut-être que aussi, alors un des points pour le moment sur lequel e-analysis est un petit peu faible, c'est l'analyse de corpus. On peut importer plusieurs fichiers audio. C'est très intéressant dans le cas d'analyse de pièces en multipiste ou d'analyse de plusieurs pièces, voire de pièces de réalisation de plusieurs versions de la même pièce. Mais il n'y a pas vraiment d'automatisme de ça. Donc l'idée, ça serait peut-être maintenant d'essayer d'analyser des corpus entiers et de pouvoir produire beaucoup plus, d'une manière un peu plus automatique ce type de représentation pour des corpus complets. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques ou des critiques.
Moi, j'ai une petite question sur les corrélations hiérarchiques. Là, ça m'intéresse bien, cette affaire-là. Est-ce que tu vois une relation avec les choses que vous avez examinées ou tu as pu m'aider avec ça? Ouais, non, enfin.
J'avoue que je ne connais pas suffisamment le travail de Jocelyn, mais c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être qu'il y a une relation. Enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment la même chose. Hein.
Non.
J'ai pas le sentiment.
Mais ça produit des choses très similaires, c'est ça qui est troublant. Enfin, c'est pas la même chose. Si, c'est un peu la même chose dans le sens où finalement, à partir d'un descripteur, quel qu'il soit, finalement, on le visualise à différentes échelles.
Voilà, c'est ça.
J'ai été frappé aussi d'ailleurs que quand tu proposes là, d'avoir différentes couleurs, tu sais, là, tes bandes avec différentes couleurs, c'est des représentations de structures, ça donne
oui,
finalement.
Tout à fait.
Donc,
En fait, ça, les histoires de bandes de couleurs que j'ai présentées au début, c'est un travail qui est en cours et c'est ça, voilà, c'est ça. En fait, l'idée est venue directement de la cosmographe. Je ne sais pas si vous utilisez la cosmographe. Dans la cosmographe, il y a quelque chose qui est très très intéressant, qui est un peu caché. C'est un travail qui a été fait par Sébastien Gulini, où justement il utilise les descripteurs audio pour faire une analyse, une segmentation automatique du matériau. Donc lui, il a travaillé, c'est un travail de. Donc son travail qui est intégré actuellement dans la cosmographe, c'est un travail de master. Il a fait ensuite un travail de thèse dans lequel il a développé une sorte de petit logiciel dans MATLAB qui permet d'aider à la segmentation automatique. Mais ce qu'il y a dans la cosmographe, c'est son travail de master. Et il a exploré une masse importante de descripteurs pour essayer de voir ceux qui fonctionnent le mieux avec la musique électroacoustique. Et à partir de ça, d'avoir en fait une représentation en bande de couleurs, en fait, comme ceci. Et alors, il le superpose dans la cosmographe sur la forme d'onde. Alors, malheureusement, on ne peut pas modifier cette représentation, c'est-à-dire que c'est une représentation avec une masse énorme de couleurs, en fait, donc on ne peut pas la simplifier. Et donc, l'idée est venue de ça, je me suis dit, tiens, mais ça serait peut-être intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait simplifier en réduisant simplement le nombre de couleurs et de voir les regroupements qui peuvent apparaître à différents niveaux, en fait. Donc ça, c'est un premier travail par rapport à ça.
Parce que la question qui se pose vis-à-vis de ça, c'est effectivement, quels sont les bons numéros ?
Bah oui, bien sûr.
Mais du coup, est-ce que c'est pareil, c'était les travaux de l'emmenaire et tout ça, ou lui faisait varier continuellement ?
Oui, parce que je me rappelle ce que tu avais montré.
Ouais, et ça me fascine un peu, parce que c'est vrai que ça permet de visualiser et de choisir quel est le niveau qui est
le niveau ou les niveaux qui sont pertinents.
Mais bon, on est sur du fragile là, parce que on génère de nouvelles informations avec ça.
C'est.
On discutera de ça dans la discussion générale, mais c'est vrai que c'est.
Je profite, je rebondis sur l'observation de Jean-Marc, le bon numéro. Ça, je pense que c'est terrible parce que finalement. On va avoir ce qu'on a envie d'avoir en fonction des paramètres d'analyse qu'on va y mettre.
Voilà. Bien sûr.
Non, c'est ça. Mais je reviens. Félicitations encore. Chaque fois que je vois et analyse, ça progresse. Ce n'est pas un logiciel, c'est une machine de guerre, apparemment. C'est incroyable. Moi, j'avais une question. C'est très bien. Tu es sur la bonne diapositive. Là, comment tu fais avec la 9CC ? Parce que tu as 12, 13 coefficients, là tu as 8 couleurs.
En fait, l'Ipstract génère un seul. En fait, fait un. Ils ont un algorithme, en fait.
Il fait quelque chose que les 12.
Alors là, je ne sais pas si c'est une MFCC ou un centroïde, je ne me rappelle plus. Si, c'est un MFCC. En fait, ils génèrent, donc après, ils doivent. Je ne sais pas comment ils font exactement. Et en fait, avec l'Ipstract, on n'obtient qu'une seule valeur, en fait.
Ça va, d'accord. Autre chose, parce que j'avais regardé l'autre version, je pense que mes profs regardaient la version avec l'extract, celle où tu avais les plugins vent.
Oui.
Mais je pense que c'est pareil. Est-ce qu'il y a la possibilité, parce que ça rejoint exactement la remarque, de régler les paramètres ?
Non. Alors, en fait, mon idée, c'est. En fait, le truc aussi, enfin, mon idée, c'est de faire quelque chose d'assez simple. Donc, la manière dont j'ai intégré le plugin vent dans Reanalysis, c'est qu'on choisit simplement le descripteur et puis on lance le calcul et c'est les valeurs par défaut qui sont utilisées. Alors c'est vrai que ça ne donne pas forcément les résultats idéaux. Donc c'est pour ça que dans le logiciel, il y a la possibilité d'utiliser un autre logiciel, voire d'utiliser d'autres types d'outils de descripteur, de pouvoir produire ces données et ensuite de les réimporter dans e-analysis pour utiliser ces graphiques. On n'est pas obligé d'utiliser ce qui est lié. C'est vrai que dans une deuxième étape, ça serait maintenant de pouvoir vraiment varier les paramètres.
Tu peux faire un mode pro.
Voilà, non. Le truc en fait, c'est que je voulais l'implémenter assez rapidement et je voulais pas trop m'embêter. Et n'étant pas développeur professionnel, ça demande un petit peu de travail, donc j'ai pas trop de temps non plus là-dedans. Donc je l'ai fait d'une manière simple qui permet de générer assez simplement. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut aussi utiliser directement les plugins de VAMP avec les régler des paramètres et ensuite pallier aux problèmes qu'on peut avoir par exemple dans Sonic Visualizer où on a des problèmes de ralentissement graphique lorsqu'on utilise plusieurs descripteurs. Qui sont assez lourds par moment, et donc là, il y a plus ces problèmes, en fait.
formation en entrée en sortie avec des formats standards. Et par exemple, les résultats d'analyse obtenus dans les analyses
Alors, on peut exporter en format texte toutes les données, alors soit en texte, en CSV, en XML. On peut choisir les données qu'on veut exporter et après pour pouvoir les réimporter dans d'autres logiciels. Il y a d'autres petites passerelles dont je n'ai pas parlé. Par exemple, dans AudioSculpt, il y a une possibilité d'utiliser des descripteurs, de calculer des descripteurs. Et on peut simplement faire une copie des valeurs du descripteur dans AudioSculpt. Et il y a une petite fonction dans e-analysis, un menu coller avancé qui permet directement de coller les valeurs simplement par copier-coller comme ça. Donc il y a des petites passerelles par endroit comme ça. Mais j'ai essayé justement dans e-analysis de, soit en importation, soit en exportation, de créer un maximum de passerelles avec d'autres logiciels. C'est pas parfait encore, mais parce que c'est vrai qu'en musicologie, c'est un des gros problèmes qu'on a bien souvent, c'est que chaque logiciel a un petit peu son format de données, avec des exports qui ne sont pas forcément compatibles entre eux. Souvent, on utilise des logiciels différents. Par exemple, on va utiliser l'acousmographe pour générer une analyse, mais alors bon, de l'acousmographe, après, il y a un export XML, mais qui est un petit peu particulier. Alors, on peut importer dans e-analysis l'export acousmographe. Si on utilise AudioSculpt pour aller explorer, analyser le son plus en détail, comment est-ce qu'on récupère les données, enfin, tous ces éléments, tout ça, pour un musicologue, c'est assez compliqué à gérer, hein. C'est assez complexe. Donc, avec e-analysis, j'ai essayé de trouver quelques passerelles comme ça, mais c'est encore bien imparfait, bien évidemment, et il y a encore beaucoup de choses à améliorer, hein, c'est sûr.
Ceci dit, il y a une vraie nécessité, je dirais, pédagogique, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une explosion des logiciels. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Marc Patier à ce sujet. Je lui ai dit, le problème, c'est que nous, nos étudiants, ce n'est pas les étudiants en informatique. Quoi. Déjà, quand il y en a qui sont un petit peu intéressés, mais ils sont perdus, c'est qu'il y a des masques de données qui sont beaucoup trop grandes. Donc c'est vrai que l'idée d'un couteau suisse qui est analyse, qui finalement fait peut-être plus simplement mais fait les choses dont on a besoin, c'est génial. Quoi.
Bah, c'était ça l'idée, hein, c'est à la base. Hein.
Alors, la discussion avec Malbatier me disait, mais finalement c'est très bien qu'il était sous tous ces logiciels parce que si je veux faire un truc précis, je sais que j'ai ma petite truc, mon petit patch quelque part, qui va faire ça, sauf qu'il y a qui sait les patchs. Bon. Mais ça, c'est un problème qu'on a, c'est-à-dire c'est vrai que ça peut donner l'impression d'être une vulgarisation, mais à la fois c'est aussi la nécessité à un moment de transférer, de rendre plus homogène, plus simple aussi, pas simple.